Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue, ma bonne Esprit Saint. Remplissez le cœur de vos fidèles et animez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Face à la terre, priez-moi, Dieu, qui avait donné, envoyez votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouer sans cesse et divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Le Fils et le Saint-Esprit. Alors nous avançons dans ce chef-d'œuvre de Saint-Pédis, Pachandi. Encore une fois, je pense que le point clé, c'est de comprendre que cette encyclique est l'une des plus importantes du magistère moderne, contemporain, ou des derniers siècles, a été écrite en 1910, ou 1907 plutôt, et qu'elle n'a pas pris une ride. Non seulement elle n'a pas pris une ride, mais on se rend bien compte que tout ce qu'explique Saint-Pédis, c'est exactement ce qui se déroule sous nos yeux. Je vous rappelle, on est vraiment dans le cœur de l'encyclique. Saint-Pédis a déjà expliqué, je reviens là rapidement sur ce qui a déjà été fait pour vous dire, vous rappeler où on en est. Donc Saint-Pédis explique qu'il y a trois faisceaux d'erreurs. Que même si le modernisme, dit-il, est l'égout collecteur de toutes les hérésies, il y a quand même un certain nombre de points qui se retrouvent. Enfin, il y a des lignes d'erreurs. Il y en a trois essentiels, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. On a déjà vu les deux premières, on est dans la troisième. L'agnosticisme, je vous rappelle, l'incapacité où est l'esprit moderne d'atteindre le vrai. Nous ne pouvons plus atteindre le vrai, parce que le vrai nous dépasse complètement. Et donc, on ne peut plus être sûr de quoi que ce soit. L'agnosticisme entraîne un doute universel, un doute sur tout. Le deuxième faisceau d'erreur, c'est l'immanentisme. On fait tout à l'intérieur. Manere, rappelez-vous, ça veut dire demeurer. Donc on fabrique sa vérité à l'intérieur de soi-même. La vérité n'est plus quelque chose d'extérieur qu'il faut découvrir, mais que chacun fait à l'intérieur de lui-même. Troisième faisceau d'erreur, l'évolutionnisme, à savoir que tout change, tout évolue, et que tout s'adapte au monde dans lequel nous vivons. Comme le monde évolue sans cesse, ce monde du Moyen-Âge n'est pas le monde du temps de Saint-Pédis, et le monde du temps de Saint-Pédis n'est pas le monde du temps de Vatican II en 65, et le monde d'aujourd'hui en 2024 n'est plus le monde du temps de Vatican II. Donc tout change, il faut constamment adapter. Donc puisque tout change, c'est là où nous en sommes, puisque tout change, la notion de dogme fixe dans le temps quelque chose d'incompatible avec le modernisme. Un moderniste ne peut pas supporter l'idée du dogme, l'idée d'une vérité fondamentale qui ne change pas. Et donc, évidemment, la notion d'un Dieu éternel qui ne change jamais, qui étant tout puissant, ne peut pas ni se tromper ni nous tromper, c'est quelque chose aussi qu'ils ne peuvent pas supporter. Pourquoi ? Parce que dans leur idée, Dieu est remplacé par l'homme. C'est l'homme qui a pris la place de Dieu. Et l'homme étant par définition quelqu'un de fini, et quelqu'un qui change tout le temps. Donc la notion même de vérité n'existe plus. Donc ils vont remplacer le dogme, puisque pour eux le dogme est incompatible. Quand on parle de dogme, quelqu'un qui a du bon sens, quand on parle de dogme, on parle de quelque chose qui est fixe. Un dogme, par définition, c'est quelque chose qui est fixe. Bon, sinon, ce n'est pas un dogme. Bon, une vérité qui ne change pas, c'est un dogme. Bon. La notion de dogme, pour eux, ne peut plus exister, et donc est remplacée par autre chose. Et ce quelque chose qui remplace le dogme, c'est le sentiment. Le sentiment remplace le dogme. Dit sous notre forme, le cœur remplace l'intelligence. L'intelligence est au dogme ce que le cœur est au sentiment. On dit qu'on a des sentiments par le cœur. Bon, c'est une façon de parler, c'est sûr. Mais ça explique quand même bien ce que ça veut dire. Donc le cœur a des sentiments que la raison ignore, comme on dit. Donc le cœur dirige les sentiments. Enfin, les sentiments peuvent fluctuer et changer. On le voit toujours dans le monde moderne. Bon, on s'attache à quelque chose, on s'attache à quelqu'un, et puis au bout d'une ou deux rencontres, on change d'idée, par exemple. Bon, pourquoi ? Parce que c'est le monde moderne. Bon, donc, la notion de dogme a disparu, elle est remplacée par l'homme. L'homme a pris la place de Dieu. L'homme étant par définition quelque chose de fini, de versatile, l'homme travaille avec son cœur. Dieu, strictement parlant, étant un pur esprit, n'a pas de cœur au sens humain du terme. Bien qu'il a un cœur dans son humanité, c'est évident. Mais le moderniste prétend que le dogme n'existe plus et est remplacé par le sentiment. D'accord ? C'est le sentiment qui remplace le dogme. Et ils vont associer au mot sentiment le mot évolutionnisme. Le sentiment change. Donc la notion même de dogme change puisqu'elle suit le sentiment. Le dogme n'existe plus, le sentiment existe. Et comme nos sentiments sont modifiés par les choses extérieures, les gens qu'on rencontre, la température qu'il fait, etc., ça va se modifier tout ça. Et donc pour eux, le dogme devenant dépendant des sentiments, la tradition elle-même va devenir dépendante des sentiments. C'est ce qu'ils appellent le principe de l'expérience religieuse. Je vais m'arrêter là-dessus, je crois, au dernier cours. L'expérience religieuse, c'est ça. Voilà ce que dit Saint Pie X, en expliquant le modernisme. Un autre point où les modernistes se mettent en opposition flagrante avec la foi catholique, c'est le principe de l'expérience religieuse. Ils le transfèrent à la tradition, et la tradition telle que l'entend l'Église en trouve ruinée totalement. C'est-à-dire que pour un catholique, le dogme est manifesté par quoi ? Qu'est-ce qui me donne la liste des dogmes, en quelque sorte, c'est le catéchisme. Les catéchistes traditionnels, pour les catéchistes de Saint Pie X. Catéchisme de Saint Pie X écrit en 1910, est tout à fait valable en 2024, et sera valable dans 2000 ans, et était valable il y a 2000 ans, ça change pas. Bon. Vous prenez un vieux catéchisme, si vous arrivez à trouver un catéchisme, bon, c'est le catéchisme tel quel n'existait pas au Moyen-Âge, strictement parlant de la même façon qu'aujourd'hui. Mais prenez un catéchisme du 15e siècle, du 16e siècle, c'est la même doctrine qu'un catéchisme de Saint Pie X, c'est le même, d'accord ? Donc, pour le moderniste, l'expérience sentimentale va s'appliquer aussi à la tradition. Donc la tradition va devenir évolutive en fonction des besoins. Donc la tradition n'est plus quelque chose qui est transmise du passé, la tradition est quelque chose qui doit s'adapter au monde moderne. Pourquoi ? Parce que la vérité pour eux c'est ça, c'est l'adaptation à la vie. C'est plus du tout l'adaptation à la réalité, au réel, c'est l'adaptation à la vie. Et la vie est changeante, et donc la tradition n'est plus dogmatique en tant que telle, la tradition dépend directement du cœur. Donc c'est ce qu'on appelle l'expérience religieuse, c'est l'expérience religieuse qui fait la tradition. Les modernistes vont donc utiliser une formule spéciale, il faut faire l'expérience de la tradition. Bon. L'expérience de la tradition, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun y met du soi pour faire sa propre tradition. La tradition n'est plus quelque chose de transmis. Bon. Dans l'Église catholique, la tradition découle directement des dogmes. Les dogmes sont transmis aussi par les traditions. Par exemple, la messe et le sacrement sont aussi des choses traditionnelles qui sont des choses dogmatiques. Donc, à partir du catéchisme, on a des dogmes qui vont être traduits par la tradition. Bon. Pour un moderniste, le dogme n'existe plus, puisque c'est le cœur qui fait le dogme. Le cœur étant quelque chose qui va contrôler plus ou moins les sentiments, donc la tradition va dépendre des sentiments du moment. Puisque la tradition dépend des sentiments du moment, conséquence, conclusion, la tradition n'est plus quelque chose de fixe. D'accord ? Et donc, quand on enlève la fixité au mot tradition, la tradition disparaît, parce que qui dit tradition, par définition, la tradition est quelque chose de fixe. Bon, quand on parle des traditions ancestrales, Ça veut dire les traditions qui remontent à nos ancêtres. On parle des traditions ancestrales concernant, par exemple, la façon de d'ensemencer un champ. C'est des traditions, une culture qui a été transmise de paysan, famille de paysan, famille de paysan depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Bon. Tout ça, pour un moderniste, n'existe plus. Donc, tout va disparaître selon le moderniste. La seule chose qui reste, c'est le sentiment religieux. Et donc, l'expérience religieuse, dit Saint-Pédis, va se propager à travers les peuples. Les modernistes, pour qui la vie et la vérité ne font qu'un, jugent de la vérité de religion. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas. D'où l'on conclut encore, toutes les religions existantes sont donc vraies. Puisque toutes les religions existantes sont des choses vivantes. Donc, il n'y a plus de religion unique. Puisque chacun a sa religion vivante, chacun peut suivre sa propre religion. D'accord ? Vous voyez, c'est là qu'il faut comprendre le lien entre tout ça. La tradition vivante entraîne une tradition changeante, puisque la vie change, et c'est ce qui va amener l'évolutionnisme. Si la tradition évolue, conséquence, la vérité va évoluer. Si la vérité évolue, conséquence, la vérité n'existe plus. Vous voyez le lien entre tout ça. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, c'est le bon sens condamne tout ce qu'enseignent ces modernistes. Le problème, c'est qu'ils ont perdu le bon sens. Oui, ils ont complètement perdu le bon sens. Alors voilà ce que dit Saint-Pédis. Au point où nous en sommes, vénérables frères, nous avons plus qu'il ne faut pour nous faire une idée exacte des rapports qu'ils établissent entre la foi et la science, entendant ainsi sous ce dernier mot l'histoire. En premier lieu, leurs objets sont totalement étrangers entre eux, l'un en dehors de l'autre. Celui de la foi est justement ce que la science déclare lui être à elle-même inconnaissable. De là un champ tout divers, la science est tout en phénomène, au phénomène, la foi n'a rien à y voir, la foi est tout au divin, cela est au-dessus de la science. C'est-à-dire que pour un moderniste, la foi est, la foi et la science sont deux choses complètement indépendantes. C'est-à-dire, une conclusion de foi, peut-être nié par la science. La science peut avoir une conclusion scientifique qui s'oppose à la foi, c'est tout à fait possible, parce qu'on n'est plus du tout dans le même domaine. Un catholique, qu'est-ce qu'il dit au contraire? Pour un catholique, la foi et la science peuvent avoir des points de rencontre. La foi et la science ne peuvent pas être en contradiction. Puisque la lumière de la foi est une lumière divine, la lumière de la science est une lumière humaine, la lumière divine est évidemment infaillible, la lumière humaine est faillible. Donc, si une conclusion scientifique s'oppose à une conclusion de foi, c'est que la science se trompe. Le modernisme, qu'est-ce qu'il dit? Les deux choses sont séparées. Vous pouvez donc penser avec la science, avoir une conclusion scientifique qui vient de l'expérience, qui peut aboutir à une conclusion totalement contraire à la foi catholique, parce qu'on n'est pas dans le même domaine. De même, la foi est indépendante, peut avoir ses propres conclusions, et la science est totalement différente. Bon, voilà ce que dit Saint-Pédis. La science est donc tout au phénomène. La foi n'a rien à y voir. La foi est tout au divin. Cela est au-dessus de la science. D'où il conclut. On conclut enfin qu'entre la science et la foi, il n'y a pas de conflit possible, qu'elles restent chacune chez elles et ne se pourront jamais se rencontrer ni partant se contredire. Il y a chacun chez soi. La foi vous dit qu'il y a un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. La science arrive à une conclusion différente. Très bien, la science a raison. A ses raisons. La science déclare que... La foi catholique déclare que Dieu a créé le premier homme à partir du limon de la terre, création d'Adam. La science, elle dit que tout ça, c'est une gigantesque supercherie, que ça ne s'est jamais fait, parce qu'en fait, tout vient du Big Bang au début de l'histoire de l'univers. Donc, on voit très bien qu'il y a une conclusion scientifique qui se pose une conclusion de foi. Si je suis catholique, qu'est-ce que je vais dire? La foi ne peut pas se tromper parce qu'elle est divine. Donc la conclusion scientifique qui se pose une conclusion de foi est fausse. Donc quand les scientifiques ou les soi-disant scientifiques prétendent que la vie vient du Big Bang en début de l'histoire du monde, ça se pose une conclusion de foi, donc la conclusion scientifique est fausse. Bon. Au contraire, le modernisme, qu'est-ce qu'il dit? Les deux choses sont totalement indépendantes. Donc vous pouvez croire ce que vous voulez, la foi et conclusion de la foi n'ont rien à voir avec le réel. Les conclusions de la foi n'ont rien à voir avec le, les choses dans la réalité. Vous voyez les conséquences? Ça veut dire, vous croyez en tant que catholique, prenons un exemple, vous croyez en tant que catholique que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu.
Bon.
Mais la foi le dit très bien. C'est votre point de vue avec la foi catholique. Mais la science permet de prouver que c'est faux. Que Dieu ne peut pas être homme et qu'un homme ne peut pas être Dieu. Donc, eh bien, on ne peut pas accepter la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. La foi catholique vous enseigne, deuxième exemple, la foi catholique vous enseigne que le jour de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts.
Bon.
Eh bien, la science va dire, cette résurrection, c'est simplement quelque chose qui est au fond de la cervelle de quelqu'un qui a la foi. Cette foi n'a plus rien à voir avec la réalité. Donc la personne qui est ressuscitée d'entre les morts, qui est sortie du tombeau victorieusement le jour de Pâques, n'est pas la même que celle qui a été crucifiée. Et les modernistes en arrivent à dire la résurrection, le Dieu de la résurrection, le Dieu qui est mort sur la croix, n'est pas le même que Dieu de la résurrection, et Dieu de la résurrection n'est pas le même que le Dieu qui est dans le tabernacle par la présence réelle, et n'est pas le même que Dieu qui est en vous par la grâce sanctifiante. Vous voyez? Ils sont parfaitement logiques, c'est ça le drame. Vous voyez? Donc, le Dieu de la foi, si vous voulez, devient complètement différent, distinct du Dieu de la science. Le Dieu de la science, c'est qui? Le Dieu de la science, c'est l'homme. Le Dieu de la foi, donc c'est la divinité d'un côté, donc la foi catholique a quelque chose de divin, parce que justement la lumière qui éclaire la foi est une lumière divine, qui ne peut pas se tromper, qui est infaillible. La science, au contraire, est éclairée par une lumière plus purement humaine, mais puisque l'homme est devenu Dieu, cette lumière scientifique, humaine, devient une lumière divine. Donc vous avez deux lumières qui s'opposent, la lumière scientifique divine et une lumière humaine divine. Mais le Dieu des chrétiens est mort. Donc c'est la lumière scientifique d'aujourd'hui qui prend la place de Dieu. Comme on appelle ce changement de paradigme. Mais c'est ce qu'on appelle le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est ça. Le Dieu des chrétiens est mort. Le Dieu des chrétiens était représenté par le poisson dans les signes du zodiaque. Le dieu du poisson, pourquoi? Parce que le poisson en grec c'est Ictus, et Ictus ce sont les initiales de Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, en grec. Et donc le poisson représentait le dieu des chrétiens, c'est pour ça que les premiers chrétiens ne se faisaient pas remarquer par la croix, mais par le poisson. Quand le poisson était gravé sur une lettre, c'était un chrétien qui avait écrit la lettre, d'accord? Bon, mais pour un moderniste, Les choses sont complètement différentes parce que le Dieu des chrétiens est mort et remplacé par un nouveau Dieu, un nouvel âge, c'est l'âge d'Aquarius, l'âge, ce qu'on appelle le nouvel âge, avec un nouveau maître du monde. L'ancien maître du monde, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Le nouveau maître du monde, c'est le démon. Et donc, on passe des droits de Dieu, qui sont complètement morts, puisque le Dieu des chrétiens est mort, on passe à un nouvel âge, avec l'âge du Verseau, l'âge d'Aquarius, l'âge du Verseau, si vous voulez, qui va être complètement différent du premier. Premier est basé sur Dieu, le deuxième est basé sur l'homme qui devient Dieu. D'accord? Et tout ça est une conséquence directe de l'évolutionnisme immanentiste, agnosticiste du moderniste. D'accord? Donc la foi est différente de la science, une vérité de foi peut être différente d'une vérité de science. On coupe donc le surnaturel du réel, on passe de l'être au paraître. Le paraître va remplacer l'être. Et c'est maintenant l'enseignement général dans l'Église. Dans l'Église moderne, c'est enseigné maintenant absolument partout. La lumière de la science est bien plus importante que la lumière de la foi. Oui. Ben, prenez l'évolutionnisme, prenez la création de l'homme. Quels sont les prêtres modernes? Quand je parle des prêtres complètement formés depuis dans l'esprit actuel de 2024 dans les séminaires modernes, quel est le prêtre moderne qui va encore oser prêcher que Dieu a créé l'homme directement, le premier homme directement à partir du démon de la terre, Adam? Puis à partir de la côte d'Adam, la première femme, Ève. Qui va oser prêcher ça dans le monde moderne? Personne. Sauf les imbéciles comme nous, parce que nous, justement, on ne suit pas cette lumière de la science, mais on suit la lumière divine. Ça ne nous empêche pas d'utiliser la science, j'ai pas peur de la science. Parce qu'encore une fois, la lumière de la science est une lumière infiniment imparfaite. Et donc, s'il y a une opposition, une contradiction entre la lumière de la science, une conclusion scientifique et une conclusion de la foi, il n'y a aucun problème pour moi, la foi a raison. Donc si la science m'annonce quelque chose qui s'oppose à la foi, c'est que la science se trompe, à bout c'est tout.
Il y a beaucoup de scientifiques qui en arrivent à la conclusion que Dieu existe parce que...
Quand ils sont honnêtes,
voilà.
Quand ils sont honnêtes, mais c'est rare.
Parfait,
les scientifiques honnêtes sont de plus en plus rares. Vous voyez, je serais curieux de savoir. Peut-être que les gens qui m'écoutent sur Internet pourraient me dire s'ils connaissent des prêtres modernes. Je parle de prêtres qui disent la Nouvelle Messe, qui ont accepté Vatican II et tout, qui osent encore enseigner la création de l'homme par Dieu directement. Je pense qu'il n'y en a pas. Parce que pour eux, ça s'oppose à la science. La science dit que l'homme ne s'est pas fait, n'a pas été créé. L'homme s'est fait lui-même à partir du Big Bang, à partir d'un évolutionnisme, à partir des premiers acides aminés qui a formé les premiers protozoaires, puis ensuite la montée jusqu'au polytechnicien d'aujourd'hui. Bon, on essaie de nous faire croire toutes ces bêtises-là, et les soi-disant scientifiques modernes, ou les gens qui sont imprégnés à cet esprit scientifique, pensent que ces choses sont vraies. Et donc, puisque la foi catholique enseigne autre chose, c'est que la foi se trompe. Vous voyez la différence? On est dans deux planètes différentes, hein. Le catholique dit, la foi catholique m'enseigne avec une lumière divine que Dieu est créateur du ciel et de la terre, que donc l'homme a été créé de toutes pièces par Dieu. La science moderne, avec la lumière humaine scientifique, essaie de me faire croire que l'homme a été créé à partir du Big Bang. Or, cette conclusion s'oppose à une conclusion de foi. La conclusion de foi étant, divine ne peut pas se tromper, donc je suis la foi, la science se trompe. Au contraire, le scientifique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Ou les gens modernes, qu'est-ce qu'ils disent? La science, la lumière de science d'aujourd'hui m'enseigne que Dieu n'a rien à voir avec la création de l'homme. L'homme s'est fait tout seul à partir du Big Bang. Or, la foi catholique m'enseigne le contraire, donc la foi catholique se trompe. Vous voyez, on est vraiment dans deux planètes complètement, complètement différentes. Bon. Alors, nous, catholiques, qu'est-ce que nous disons? Nous disons la foi correspond au réel. Pour un moderniste, la science correspond au réel. La science est la réalité et la foi est simplement quelque chose de purement sentimental. C'est ce que j'ai déjà expliqué auparavant. La foi n'est que pur sentiment, donc la foi n'étant que pur sentiment est une chose qui ne peut pas être sûre, parce que les sentiments sont par définition des choses qui peuvent évoluer, qui peuvent changer constamment. D'accord? Donc quand on parle de la résurrection du Christ pour un catholique ou la résurrection du Christ pour un scientifique, on ne parle pas la même chose du tout. Pour un catholique, quand on parle de la résurrection du Christ, ça veut dire quoi? Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est vraiment mort dans sa divinité, dans son humanité, toujours uni à la divinité le vendredi saint, qui est ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques, et le même homme-Dieu qui est mort, le même homme-Dieu qui est mort sur la croix le vendredi saint, dans son humanité, ressuscite glorieusement le jour de Pâques. C'est le même. Au contraire, le Christ ressuscité à part le scientifique moderne, n'est pas le même que le Christ qui est mort sur la croix le vendredi saint. Pourquoi? Parce que...
Il y croit
plus du tout, parce que pour lui, c'est quelque chose qui ne peut plus être prouvable scientifiquement. Donc il n'accepte que ce qu'ils peuvent prouver scientifiquement. C'est l'histoire de Thomas, saint Thomas, apôtre. Si je ne mets pas mon doigt dans les plaies des mains, des pieds, du côté, je ne croirai pas.
Oui.
Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, Saint Pédite va donner des exemples, justement. Voilà le texte. Il est bien vrai, diront les modernistes, que ces choses-là appartiennent par leur nature au monde des phénomènes. Les phénomènes, ça change. Mais en tant qu'elles sont pénétrées de la vie de la foi et qu'en la matière qui a été dite, elles sont transfigurées et défigurées par la foi, sous cet aspect précis, les voilà soustraites au monde sensible et transportées en guise de matière dans l'ordre divin. Ainsi, à la demande, si Jésus-Christ a fait des vrais miracles et de véritables prophéties, s'il est ressuscité vraiment et monté au ciel, la science répondra non, par agnosticisme, la foi répondra oui. Et pour eux, il n'y a pas de contradiction. La foi peut répondre, notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment Dieu, donc il est vraiment ressuscité dans son humanité le jour de Pâques, mais la science agnostique le nie. Mais pour eux, tout simplement, on est dans deux mondes différents, complètement séparés. Vous pouvez croire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité le jour de Pâques, mais c'est le sentiment en vous qui parle. C'est pas basé sur une réalité. La science prouve le contraire. Donc vous pouvez croire ça et vous convaincre que ce que vous croyez correspond à la réalité, mais c'est une conviction personnelle que vous faites à partir de vos sentiments. Ça n'a rien à voir avec la réalité. En fait, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts. Et c'est comme ça pour tout. Prenez la présence réelle, par exemple. La présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le tabernacle. La foi catholique nous enseigne, notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité sous les apparences des accidents de ce qui semble encore être du pain, mais la substance du pain a disparu et a été transformée en substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ par la transsubstantiation, changement de substance. Bon. Qu'est-ce que veut dire le scientifique ou le moderne? Le pseudo-scientifique, parce que la vraie science peut justement prouver le contraire. Donc, le pseudo-scientifique, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, de façon scientifique, si j'examine cette hostie consacrée, je trouve que c'est du pain. Et donc, la foi catholique, qui enseigne que ce n'est plus du pain, mais la substance du corps de notre Seigneur Jésus-Christ, se trompe parce que la science me dit le contraire. Cependant, monsieur le catholique, vous avez le droit de penser ça, mais vous ne pouvez pas l'imposer parce que c'est pas votre foi est complètement distincte de la lumière de la science. Alors évidemment, qu'est-ce qui va énormément bloquer ces gens-là? C'est un miracle eucharistique. Un miracle eucharistique. Quand il y a un miracle eucharistique, alors là, ça les stoppe complètement. C'est comme le miracle par exemple du linceul de Turin, le miracle de Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique, tous les miracles eucharistiques qui ont eu lieu, qui sont des manifestations extraordinaires que la foi catholique tient à la vérité. Oui. Alors ouais, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science peut aboutir à une conclusion qui est différente de la conclusion de la foi, et pour un moderniste, chacun dans son domaine. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez. Vous pouvez croire que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Vous pouvez croire que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques. Mais c'est purement sentimental. C'est du domaine des phénomènes. C'est un nuage qui passe. Donc vous pouvez croire si vous voulez, si ça vous aide à dormir le soir, très bien, vous croyez que le bon Dieu vous a créé, très bien. Mais la science qui correspond au réel nous enseigne le contraire. Donc la foi est une gigantesque fumisterie. Oui. Il faudra bien se garder pourtant de trouver une contradiction. La négation est du philosophe parlant à des philosophes et qui n'envisage Jésus-Christ, dit Saint-Pédis, que selon la réalité historique. L'affirmation est du croyant, s'adressant à des croyants qui considèrent la vie de Jésus-Christ comme vécue à nouveau par la foi et dans la foi. Vous voyez donc, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ est quelque chose qui dépend exclusivement des phénomènes et des sentiments. Vous voyez? D'où l'importance des miracles. C'est comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il prouvé sa divinité? Ben justement par les miracles et par les prophéties qu'il a remplies. Voilà. C'est pour ça que les modernistes nient tous les miracles. Ils vont toujours vouloir expliquer les miracles avec des raisons naturelles. L'exemple classique que je vous ai déjà donné plusieurs fois, c'est la multiplication des pains miraculeuses entre Seigneur Jésus-Christ, qui avec quelques pains et quelques poissons va nourrir des milliers de personnes. C'est un miracle qui prouve qu'il est Dieu. Le moderniste dit, il n'y a aucun miracle, parce qu'il est impossible que la science puisse accepter qu'un homme puisse multiplier à l'infini des pains et du poisson, c'est pas possible puisque la science ne peut pas le prouver. Donc, c'est que votre multiplication des pains que vous prétendez être historique n'est en fait que purement symbolique. C'est le symbole de la vertu de charité. Ils ont tout simplement partagé. Il y avait des gens qui avaient quelques poissons, quelques pains, ils ont partagé parce que bon Dieu a prêché sur la charité. Chacun a commencé à nourrir les voisins qui étaient juste à côté d'eux. Et tout le monde a été nourri comme ça. Il n'y a pas eu de miracle. Et tout comme ça. Donc les modernistes nient tous les miracles, tous.
Résurrection de Lazare.
Et tout est comme ça. Oui, il reste plus rien. Vous voyez.
Et tous les miracles de Lourdes aussi.
Ben c'est pareil. Voilà, pareil. Bon, c'est pour ça que les grandes apparitions miraculeuses sont extrêmement importantes pour le croyant. Bon. Quand Sainte Bernadette justement a vu la Très Sainte Vierge Marie à Lourdes, les rationalistes de l'époque ont tout fait pour ridiculiser les apparitions de la Sainte Vierge de Sainte Bernadette en 1858. Bon, elle a tout fait. Il a fallu, au début, ils ont la Très Sainte Vierge Marie a même voulu humilier Sainte Bernadette de façon extraordinaire même. Là, on voit la sainteté de Sainte Bernadette quand les gens sont tout autour de Bernadette et puis qu'est-ce que lui demande à sa Sainte Vierge Marie? Tu vas aller prendre de l'herbe et tu vas manger de l'herbe. Et à tel point que Sainte Bernadette a hésité même un moment, donc elle va arracher quelques poignées d'herbe et commence à manger de l'herbe devant toute une foule de rationalistes qui disent « Ah, elle se prend pour une vache, elle se prend pour une vache, elle est complètement folle, elle mange de l'herbe. » Et à ce moment-là, ils s'en vont tous en riant, c'est de la blague, c'est une gigantesque fumisterie. Et à ce moment-là, la source miraculeuse est apparue, à l'endroit même où elle avait gratté pour arracher l'herbe. La source miraculeuse est apparue. Les rationalistes avaient déjà quitté le lieu en allant boire une bonne bière en se moquant de Sainte Bernadette. Et c'est là où les premiers miracles sont apparus. Parce qu'il y a des catholiques qui, eux, y croyaient, qui ont vu la source miraculeuse, qui ont dit, mais voilà un miracle, d'où vient cette eau? Et c'est là où une maman qui avait un enfant qui était paralysé, un bébé qui était paralysé, a pris son enfant, a tout de suite deviné que là, elle a été le miracle, est allée plonger le bébé dans l'eau, et le bébé était un des premiers miracles de Lourdes. Le bébé a été miraculeusement a retrouvé la santé. Et
il y en a beaucoup depuis.
Voilà, et énormément de miracles. Vous voyez, c'est pour ça que il faut. C'est compliqué pour le monde moderne, parce que les hommes modernes sont imprégnés de cet esprit scientifique. Ils veulent des preuves pour tout. Comment voulez-vous prouver scientifiquement que notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans le tabernacle, est vraiment là avec son corps, son sang, son âme et sa divinité? C'est impossible, sauf miracle eucharistique. Un miracle eucharistique, c'est quoi? C'est une double transsubstantiation. Lorsque le prêtre consacre les saintes espèces, quand je prononce les paroles de la consécration sur l'hostie, je change, Dieu, par le ministère du prêtre, va changer la substance du pain en la substance du corps du Christ. La substance va changer, mais pas les accidents. Donc en fait, quand il y a un miracle eucharistique, il y a toujours bien sûr une transsubstantiation, mais cette transsubstantiation va être accompagnée en plus de ce qui semble logique, du changement des accidents. Donc il n'y a pas une double transsubstantiation, comme j'ai dit, mais une transsubstantiation, la substance change, mais aussi les accidents. Lorsque le prêtre consacre une sainte hostie, l'hostie, il y a un changement de la substance, mais pas les accidents. Les accidents, c'est quoi? C'est la couleur, c'est la taille, c'est la quantité de l'hostie dans 6 mois, ça ne change pas. Mais quand il y a un miracle eucharistique, quand il y a un miracle eucharistique, il va y avoir aussi un changement des accidents. C'est-à-dire, l'hostie consacrée va devenir un bout de muscle, littéralement. Évidemment, Dieu ne fait pas ça normalement. Pourquoi? Pour que les chrétiens ne soient pas accusés d'être des anthropophages. C'était une des premières accusations quand les premiers chrétiens. Hein. Les premiers chrétiens, quand les païens commençaient à découvrir, attention, ils mangent le corps du Christ, mais sont des anthropophages, ils mangent la chair humaine. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, justement, n'a pas voulu, dans l'ordre normal des choses, qu'il y ait un changement au niveau des accidents, mais simplement au niveau de la substance. Mais quand il y a un miracle eucharistique, il y a eu des miracles eucharistiques extraordinaires, qui ont été justement, après vérifiés, c'est là où la science peut intervenir. Parce que quand il y a eu ce changement et que l'hostie s'est transformée en un bout de viande, littéralement, un bout de flotte, de muscles, on a porté ce muscle, sans préciser d'où ça venait, à des laboratoires scientifiques. Et eux, ils ont fait les choses de façon purement scientifique. Ils ne savaient pas du tout d'où ça venait. La conclusion, c'est une fibre d'un cœur humain, d'un homme de trentaine qui vient de mourir après des souffrances épouvantables. Et à ce moment-là seulement, la foi dit, attention, ce muscle, ça vient d'une hostie consacrée.
Miracle eucharistique.
Miracle eucharistique. Alors le scientifique qui est honnête, à ce moment-là, mais il est obligé de se mettre tomber à genoux, et les scientifiques honnêtes qui ont étudié le Saint-Suaire ont été obligés de reconnaître que c'était divin. Les scientifiques honnêtes qui ont étudié à fond, par exemple, l'œil miraculeux de la Très Sainte Vierge Marie sur le voile de Notre-Dame de Guadeloupe, sur la tilma de Juan Diego en 1531, apparition de Notre-Dame de Guadeloupe, eh bien, les scientifiques ont été obligés de retrouver la foi. Seulement, c'est toujours pareil, pour retrouver, dans les milieux scientifiques, c'est extrêmement difficile, parce qu'ils sont tellement pétris d'orgueil, qu'il faut une humilité extraordinaire pour avoir le courage de reconnaître, attention, là, le doigt de Dieu est là. Le doigt de Dieu est là, vous voyez. Et c'est comme ça que, parfois on dirait que le bon Dieu s'abuse, vous voyez. Lorsque la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Benoît Trancurel, au Lot, près de Gap, au début personne n'y croyait. Et puis tous les chanoines du coin étaient absolument contre, ils ne croyaient pas à l'apparition de Benoît Trancurel. Et donc ils ont essayé d'interdire l'apparition, c'est pas du lac de Serpenson. Donc ils ont essayé d'interdire l'apparition. Et l'évêque avait même fait publier un papier qu'elle avait fait, qui avait été cloué sur la petite chapelle qui avait été construite, pour interdire sous peine d'excommunication que les gens viennent prier dans cet endroit-là. La Sainte Vierge est apparue à Benoît Trancurel, elle a dit « enlève le papier ». Elle a enlevé le papier. Et puis tous les chanoines, les chanoines continuaient de se battre contre l'apparition, ils n'y croyaient pas. Et à ce moment-là, le bon Dieu s'en est mêlé. Il y a une femme qui est arrivée portée, qui était sur un chariot complètement paralysée. Ils l'ont portée, ils l'ont déposée à l'endroit de l'apparition. On a immédiatement retrouvé l'usage de ses membres. Elle est sortie en combattant comme une chèvre. Alors là, évidemment, les chanoines, là, quand même, ont ouvert les yeux. Ils ont dit, le doigt de Dieu est là. Et là, ils ont changé de registre. Ils ont reconnu que c'était de Dieu, vous voyez. Tout est comme ça, vous voyez. Alors, cet évolutionnisme, attention, Saint Pie va expliquer justement, qu'est-ce qu'il explique là? C'est que cet évolutionnisme va passer dans toutes les choses. Il va passer dans toutes les choses, pas simplement dans la science, mais va passer aussi dans l'histoire, va passer dans la tradition, va passer dans la théologie, va passer dans tout. Alors on avance. Alors que je me trompe pas où est-ce que j'en suis. Ça, on est là. Non, d'accord. Alors, je continue avec le texte de Saint Pilis. Hein. Il faut voir, c'est des textes qui sont pas faciles hein. Pour les gens qui lisent l'encyclique de Saint Pilis. Il faut bien avouer ce qui est. L'encyclique de Saint Pilis, c'est une encyclique difficile. C'est une encyclique qui est fondée sur des thèmes extrêmement philosophiques. Elle n'est pas facile à comprendre. C'est pour ça qu'il faut bien essayer de l'expliquer petit à petit. Alors. Le modernisme en arrivait à dire que l'évolution religieuse doit se coordonner à l'évolution intellectuelle et morale. La foi doit suivre l'évolution de la science. Au Moyen-Âge, on croyait que Dieu avait créé l'homme parce que c'était les conclusions scientifiques de l'Église de l'époque. En 2024, on a compris que Dieu n'avait plus rien à voir là-dedans. Et maintenant que l'homme a été créé par un descendant d'un grand singe en Afrique. Donc, monsieur, il vous faut vous conformez, vous coordonnez à l'évolution intellectuelle et morale. Voilà le texte de Saint Pie X. À la science donc, à la philosophie de connaître de l'idée de Dieu, de la guider dans son évolution, et s'il venait à s'y mêler quelque élément étranger, à la corriger. D'où cette maxime des modernistes, que l'évolution religieuse doit se coordonner à l'évolution intellectuelle et morale, ou mieux dire, et selon le mot d'un de leurs maîtres, s'y subordonner. Donc, l'évolution religieuse doit, la foi catholique, la religion catholique doit se subordonner, se coordonner, se soumettre à l'évolution scientifique et morale.
C'est impossible.
Donc la moralité du Moyen-Âge ne correspond plus à la moralité d'aujourd'hui. C'est pour ça que les modernistes d'aujourd'hui, on arrive à demander la dépénalisation de l'avortement. Et oui, c'est pour ça que les modernistes d'aujourd'hui, on arrive à demander la dépénalisation de l'homosexualité. Ils reconnaissent, c'est le pire, c'est qu'ils reconnaissent, oui c'est vrai, l'Église catholique a enseigné dans son catéchisme antique du Moyen-Âge que l'homosexualité était un crime, un péché gravissime, contre nature, qui crie vengeance à la face de Dieu. Mais ça correspondait à une certaine époque, au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on est en 2024, la science a complètement évolué, a complètement changé. Ce qui était vrai au Moyen-Âge ne l'est plus aujourd'hui, parce que la foi catholique doit être sublimée en quelque sorte par les scientifiques, et la lumière scientifique qui s'oppose à la lumière de la foi va obliger la lumière de la foi à se soumettre à la lumière scientifique. Donc aujourd'hui, l'homosexualité est acceptable, l'avortement est acceptable, parce que ce qui était vrai au Moyen-Âge ne l'est plus aujourd'hui, les choses ayant changé à cause de l'évolutionnisme, à cause de l'agnosticisme et à cause de l'immanentisme. Où est-ce qu'il reste de la foi catholique ?
Du malin, surtout.
Il ne reste plus rien. Tout saute. Et c'est pour ça que les modernistes, parfois, enfin les gens qui étudient un peu le modernisme, vous disent, mais monsieur l'abbé, c'est affolant. Regardez Bergoglio, toutes les bêtises qu'il raconte, il va s'arrêter quand ? Il ne va pas s'arrêter. Tout va y passer. Il a déjà détruit le baptême, il a détruit le mariage, il a détruit la messe, il a tout détruit. Il va tout y passer, tout va y passer. Parce que pour lui, la lumière de foi du Moyen-Âge ne correspond plus à rien aujourd'hui, parce que la lumière scientifique a pris la place de la lumière de foi. Donc l'homme est soumis à la science. Alors que les catholiques, au contraire, moi, j'ai absolument pas peur de la science. Vous pouvez me montrer tous les textes scientifiques que vous voulez qui prouvent que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts le jour de Pâques. Ça change rien à ma foi. Je dirais, écoutez, monsieur, votre lumière scientifique, votre lumière humaine prétend que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ressuscité le jour de Pâques, mais ma lumière divine, qui est largement supérieure à la vôtre, puisque par définition, Dieu étant Dieu, ne peut ni se tromper ni nous tromper, la lumière divine m'enseigne la chose. Point final, c'est fini, terminé. Fin de la discussion, on n'en parle plus. C'est terminé, c'est terminé. Oui. Et c'est ça qui est terrible. C'est pour ça que le Seigneur Lefebvre nous disait au séminaire qu'on ne peut pas... il nous disait, un moderniste est inconvertissable. Et c'est un peu vrai. Un moderniste est inconvertissable parce qu'ils sont tellement empêtrés dans leur idée que la lumière scientifique est plus importante que la lumière de foi.
L'orgueil aussi.
Et qu'ils soumettent la foi, à la science. C'est l'orgueil qui prend tout. Le démon, c'est le démon de l'orgueil. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Et ça, c'est... je vais en parler souvent dimanche, parce que dimanche prochain, c'est l'évangile du pharisien et du publicain. Et c'est exactement ça. Le publicain, c'est l'humilité. Le pharisien, c'est l'orgueil. Le publicain, c'est le symbole du ciel. Le pharisien, c'est le symbole de l'enfer. Le publicain, c'est le symbole de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pharisien, c'est le symbole du démon. Et le pharisien sort de l'église, du temple, il n'est pas pardonné. Le publicain, au contraire, est pardonné. Voyez. Alors, je reprends le texte. L'homme, dit Saint Pédis, ne souffre point en soi de dualisme. Aussi, le croyant est-il stimulé par un besoin, écoutez les termes des modernistes, le croyant est-il stimulé par un besoin intime de synthèse à tellement harmoniser entre elles la science et la foi que celle-ci ne contredit jamais à la conception générale que celle-là se fait de l'univers. Ainsi donc, vis-à-vis de la foi, la liberté totale de la science, au contraire, et nonobstant qu'on les ait données pour étrangères l'une à l'autre, à la science, asservissement de la foi. Donc, liberté totale de la science, et la foi va devoir s'asservir à la science. La science Au contraire, nonobstant qu'on les ait données pour étrangères l'une à l'autre, à la science, asservissement de la foi. Donc non seulement, première étape, la foi et la science sont complètement séparées. Deuxième étape, la science, la foi doit être soumise à la science.
Et la science peut faire perdre la foi.
Oui, parce que la science correspond au réel. Pour eux, la foi est complètement déconnectée du réel. Déconnectée du réel. Le problème, c'est que le réel des scientifiques n'a plus rien à voir avec le réel, justement. Parce que le réel des scientifiques est en fait un virtuel. Ils parlent du réel à longueur de journée, mais ils vivent complètement dans les réels. Regardez, par exemple, ce qui se passe actuellement, avec ces milliards qui sont dépensés pour essayer de prouver qu'il y a une vie intellectuelle dans l'espace, en dehors de la Terre. Ils dépensent des milliards pour essayer de trouver ça. Ils disent, oui, c'est extraordinaire, on a reçu un signal électronique extraordinaire, extraterrestre. Donc ça prouve qu'il y a une vie. Donc ils envoient même, pour la bêtise, à envoyer des satellites avec des disques magnétiques, espérant qu'ils pourront être lus par les intelligences que le satellite va rencontrer dans son périple à travers l'espace. Comme si, non seulement ils croient à une vie intellectuelle en dehors de la Terre et des anges, mais ils croient que cette vie intellectuelle a des ordinateurs capables de lire un disque humain. Enfin, c'est du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Vous voyez ? Mais c'est ça. On voit très bien. Et le problème, c'est que cet orgueil a fait tellement de dégâts que l'orgueil a fini par détruire complètement la foi. Donc la foi a totalement disparu. On arrive, dit Saint Pilis, à l'asservissement de la foi à la science. D'accord ?
Et à perdre la foi à cause de la science.
Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que catholique ? Et voilà ce que nous dit Saint Pilis. Toutes choses, vénérables frères, qui sont en opposition formelle avec les enseignements de notre prédécesseur, le pape Pie IX. Il écrivait en effet qu'il est de la philosophie, en tout ce qui regarde la religion, non de commander, mais d'obéir. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie est la servante de la théologie. Donc, il est de la philosophie, en tout ce qui regarde la religion, non de commander, mais d'obéir. Attention, la philosophie, pour étudier la philosophie, pas besoin de la foi. Hein. La philosophie, c'est la lumière naturelle de la raison. La théologie, c'est une lumière surnaturelle. Il faut la foi pour étudier la théologie. Mais on peut être un bon philosophe sans croire en Dieu, à condition qu'on ait l'honnêteté. Parce qu'on part d'une lumière naturelle. D'accord ? On peut prouver l'existence de Dieu sans avoir la foi. Bon, je reprends ce texte. Il est de la philosophie. Non de commander, mais d'obéir. Non de prescrire ce qui est à croire, mais de l'embrasser avec une soumission que la raison éclaire. De ne point scouter les profondeurs des mystères de Dieu, mais de les révérer en toute piété et humilité. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux philosophes ? Obéissance. Obéissance à la foi. Voilà pourquoi le pape Pie IX, dans son syllabus qu'on a déjà expliqué en long, en large et en travers dans les premiers cours, reprenez ces cours-là pour ceux qui ont un peu oublié, qu'enseigne Saint Pilis, justement, la contradiction totale qui peut exister entre la lumière de la science et la lumière de la foi si la science est détruite par l'orgueil de l'homme. Si le scientifique a suffisamment d'humilité pour accepter la lumière de la foi et se faire guider par la lumière de la foi en disant, en tant que scientifique, j'étudie toute une série de phénomènes physiques. Mais si une de mes conclusions scientifiques s'oppose à ma foi catholique, c'est que je me trompe. Là, on peut faire ça, on a le droit de faire ça. Mais à partir du moment où je dis, j'examine avec une lumière naturelle, et même si j'arrive à une conclusion qui s'oppose à la foi catholique, tant pis, je continue de m'enfoncer dans ce domaine, alors là, on se trompe complètement. Parce qu'encore une fois, la lumière de la raison peut se tromper, peut mal éclairer, peut s'obscurcir, pas la lumière de la foi. Les modernistes renversent cet ordre. Parce que j'en suis étonné. J'ai perdu ma ligne là. Voilà. Donc, qu'est-ce que demande, je répète cette phrase qui est essentielle. Donc, il ne faut pas. J'ai perdu ma ligne, excusez-moi. L'asservissement de la foi. Donc, qu'est-ce que nous demande le bon Dieu? Il reprend le texte de Pie-IX, ou l'enseignement de Pie-IX. Donc, qu'est-ce que la philosophie doit faire en regardant la religion, par rapport à la religion? Non pas commander, mais obéir. Non pas prescrire, mais croire. Et embrasser avec une soumission que la raison éclaire, pour ne point scruter les profondeurs des mystères de Dieu, mais de les révéler en toute piété et humilité. Les modernistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils renversent cet ordre, dit Saint Pie-X. Ils méritent qu'on leur applique ce que Grégoire IX, un autre de nos prédécesseurs, écrivait de certains théologiens de son temps. Il en est parmi vous, gonflés d'esprit de vanité ainsi que des outres, de l'orgueil, qui s'efforcent de déplacer par des nouveautés profanes les bornes qu'ont fixées les pères, qui plient les cinq lettres aux doctrines de la philosophie rationnelle par pure ostentation de science sans viser à aucun profit des auditeurs, qui séduit par d'insolites et bizarres doctrines, mettent qu'eux en tête et la servante assujettissent la reine. À la servante assujettissent la reine. Et au lieu de dire que la philosophie est servante de la théologie, il place la lumière divine de la théologie sous la lumière humaine. Parce que l'homme a remplacé Dieu. Et donc le Dieu des catholiques doit se soumettre à la nouvelle lumière, qui est la lumière d'aujourd'hui. Et ça, c'est le monde moderne. Vous voyez ? Et c'est pour ça, c'est la seule façon d'arriver à expliquer toutes les aberrations qu'on entend aujourd'hui. Vous voyez, quand m'a encore envoyé un texte d'une gamine de 15-16 ans, peut-être, ou 13 ans, j'en peux plus, entre 13 et 15 ans, donc qui décide qu'elle veut devenir un garçon. Elle en parle à ses parents, qui évidemment refusent de rentrer dans son système. Elle va se plaindre à son école. L'école la fait rencontrer un médecin moderne. Au bout d'une demi-heure, il a décidé qu'effectivement, elle a le droit de se considérer comme homme. Tout de suite, des bloqueurs de puberté, des changements, la bourde de testostérone pour bloquer ses oestrogènes, etc. En faire déjà un homme avec des préparations pour des mutilations gravissimes qui sont irréversibles. Les parents, tout ça derrière le dos des parents. Les parents ont essayé de bloquer la chose, ont porté plainte en disant « Vous n'avez pas le droit de faire ça à ma fille, on ne veut pas perdre notre fille ». Et voyant que les parents refusaient, l'État a obligé les parents à accepter la volonté de la fille, ils ont retiré la fille de la garde des parents, ils l'ont mise dans une autre famille, plus compréhensible. Et c'est ce qui se passe maintenant partout. Et on peut dire, les gens disent, mais comment peut-on en arriver à des choses pareilles? On en arrive à des choses pareilles parce que l'orgueil est tel chez les modernistes que ça détruit complètement le bon sens. Le modernisme ne fait pas simplement perdre la foi, le modernisme fait perdre le bon sens. Le bon sens élémentaire saute. La foi saute complètement, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, à ce moment-là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et c'est pour ça, d'ailleurs, ils le savent très bien, c'est ça le pire, c'est qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'il faut, pour détruire le bon sens, il faut détruire la loi naturelle. Donc il faut passer à la révolution contre nature. Et donc pour pouvoir détruire la foi catholique jusqu'aux racines dans une âme, il faut pousser cette âme à se jeter à corps perdu dans les plaisirs contre nature. Et donc c'est la glorification de l'homosexualité, de la sodomie et toutes ces horreurs. Pourquoi? Parce que l'Église a toujours enseigné que c'est les gens qui vivent dans ce péché... commettre un péché qui crie vengeance contre le ciel, c'est pas rien comme formule. Elle est pas de moi, elle est du catéchisme de Saint Pie-X, d'accord. Mais les modernistes au contraire détruisent tout ça et ils poussent les jeunes à fond dans les crimes contre nature, donc en essayant de pousser à l'homosexualité, à la sodomie, au changement de sexe, parce qu'ils savent très bien que comme ça, ce sont les racines mêmes de la foi qui vont sauter, il n'y aura plus rien.
Même des animaux, hein, dire qu'ils sont des animaux.
Voilà. Et maintenant, on en arrive à avoir des gens qui disent que la vie d'un chat ou d'un chien a autant d'importance que la vie d'un homme, voire même plus.
Ils se considèrent comme chien ou chat.
D'accord. Donc, séduit par d'insolites et bizarres doctrines, les modernistes mettent que en tête et à la servante assujettissent la reine. Mais c'est ça le problème de cette encyclique, c'est que les phrases sont compliquées. Il faut voir qu'en France, c'est du très bon français, c'est très bien traduit, mais il faut lire trois fois la phrase pour comprendre ce que veut dire Saint-Pédis. Hein. Séduit par l'insolite et bizarre doctrine, mettre que en tête et à la servante assujettissent la reine. C'est tout une inversion des termes. C'est pas évident, moi j'ai dû relire la phrase trois ou quatre fois, on comprend ce qu'il voulait dire. Le problème, c'est que toute l'encyclique est comme ça, parce que les termes sont très précis. Alors on avance dans ce texte de Saint Pédis. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite qui est pleinement conséquente. Bon. À les entendre, à les lire, on est tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Écoutez cette phrase très importante du encyclique, telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. C'est-à-dire que tout est contradiction chez eux. Donc ils sont capables d'écrire une page parfaitement catholique, vous tournez la page et disent le contraire de ce qu'ils viennent de dire dans la page précédente. Ça, c'est les modernistes. Alors, après, en fonction des gens qui vont lire le texte, à qui ils veulent donner le texte, ils vont appuyer sur une partie ou l'autre. Mais oui, nous sommes parfaitement catholiques. Lisez, monsieur, la page 22. Vous voyez, tout est catholique. Le problème, c'est que la page 23 dit le contraire de ce que dit la page 22. Alors, les gens vont lire la page 22, vont lire la page 22, vont pas lire la page 23 qui dit tout le contraire. Et c'est la technique, si vous voulez, très connue en matière révolutionnaire, de 2 - 1 égale 1. On fait 2 pas en avant vers la révolution. Les braves gens crient, au scandale, on fait 1 pas en arrière. Et puis on attend que ça se calme. Alors les gens sont contents. Ben oui, il a fait 1 pas en arrière, c'est un brave gars. Il a fait 1 pas en arrière, il est revenu vers la tradition en arrière. De gracias. On attend un peu, puis après il va faire 2 pas en avant. Les braves gens crient, on fait 1 pas en arrière. Ah ouf, il est revenu en arrière. Il a fait 2 pas en arrière et 1 pas en avant. Le contraire, pardon, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Donc en fait, à chaque fois, il grignote un pas vers l'avant. Regardez par exemple Bergoglio. Il va dire des horreurs contre le baptême, des horreurs contre le mariage, des horreurs contre la messe, des horreurs sur toutes ces choses-là. Et il va parler du gouvernement mondial. Il va parler de, il va dire qu'il faut commencer à bénir les ménages homosexuels, qu'il n'y a pas de problème pour accepter ces braves gens dans l'église. Il faut les aimer tels que le bon Dieu tels qu'ils sont. Le bon Dieu les aime tels qu'ils sont. On n'a pas besoin de changer. Les braves gens vont pas commencer à pousser des cris. Et puis hop, un petit retour en arrière où l'avortement c'est mauvais. Non, on ne pourra jamais accepter l'avortement. Là, par exemple, il commence à laisser les religieuses modernes recyclées avancer l'idée du sacerdoce des femmes, et Bergoglio prend soin de temps en temps de faire un petit rappel catholique traditionnel en disant « Oui, une femme ne peut pas devenir un prêtre. » Et puis après, les évêques en dessous de la table vont dire « Oui, dans l'ordre actuel des choses. Dans l'ordre actuel des choses, il est vrai qu'une femme ne peut pas devenir prêtre. Mais ces choses peuvent évoluer. »
Dans ces commissions, vous avez des femmes de l'Église anglicane qui viennent.
Bien sûr. Et ils veulent non seulement ça, mais vous avez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours la même chose. Bergoglio est un malin. C'est pas lui qui va dire, il faut ordonner les femmes prêtres. Mais il laisse les modernistes, les évêques modernistes, les évêques imprégnés protestantistes, qui ont probablement perdu la foi, qui sont des apostats, littéralement, commencer à parler de l'ordination des femmes, voire même de commencer à ordonner des femmes, et puis Bergoglio va simplement donner une petite tape, oui, quand même, non, c'est pas très bien ça, nous on n'est pas d'accord. Et puis il a laissé faire, comme il a tout laissé faire jusqu'à présent. Et puis petit à petit,
choses. Des commissions œcuméniques avec des protestants, des anglicans, pasteurs.
Oui. Et c'est logique. C'est logique. Pourquoi? Parce que pour eux, la notion de dogme a complètement disparu. La notion de vérité fixe a complètement disparu. La notion de lumière divine a totalement disparu. Elle est remplacée par une notion de lumière humaine.
Écuménique.
Qui dit lumière humaine dit lumière qui change. Donc les choses étaient vraies au Moyen-Âge, ne le sont plus aujourd'hui. C'est pour ça que quand on parle à un moderniste, moi j'ai remarqué, c'est ça qui est triste, quand vous parlez à un moderniste et que vous la parlez d'un texte qui est infaillible, ils vous rayonnent. Parce qu'ils vont vous dire, votre infaillibilité, on s'en fout. Mais ça a été déclaré deux ou trois fois au Concile Vatican I en 1870 par le pape Pie IX. On s'en fout. Ça ne veut rien dire. 1870, les choses ont changé depuis. Oui, c'est vrai, cette doctrine était vraie en 1870. Mais aujourd'hui, en 2024, les choses ont changé. Donc, ce qui était vrai et infaillible en 1870, ce n'est plus aujourd'hui. Et donc, on peut tout changer. On peut tout changer le catéchisme. C'est vrai que l'Église catholique a toujours dit pendant 2000 ans qu'une femme ne pouvait pas devenir prêtre. C'était métaphysiquement impossible. Mais la lumière a changé. Ça, c'est la lumière divine. La lumière divine est éteinte. Maintenant, c'est une lumière humaine qui a pris la place. Et la lumière humaine prétend le contraire. Donc, ce que vous dites était vrai au Moyen-Âge. Fini, terminé, on ferme la porte. Oui, oui, c'est le Moyen-Âge. Aujourd'hui, en 2024, les choses ont changé. Et vous allez voir qu'ils vont arriver à l'ordination des femmes. Hein. Ça va arriver. Il y a, pratiquement, ça commence à arriver. Bon, ils vont bien avoir un évêque qui va se lancer, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont le faire de façon publique? Ça c'est autre chose. Au moins au début, ils vont ordonner des femmes. Ils vont prétendre que les femmes sont devenues prêtres. Une femme ne peut pas devenir prêtre. C'est absolument métaphysiquement impossible. De même qu'il est métaphysiquement... Quand les gens, les femmes, parfois, les gens nous en parlent, ces choses-là, des modernistes, des gens qui n'ont pas la foi. Oui, vous êtes contre les femmes. Pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas devenir prêtre? C'est un scandale, une femme ne peut pas devenir prêtre. Je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, c'est un scandale parce qu'un homme ne peut pas mettre un enfant au monde. Pourquoi il n'y a que les femmes qui peuvent mettre un enfant au monde et pas un homme? Et à ce moment-là, elles ouvrent la bouche comme un poisson rouge hors de l'eau, et elles ne savent plus quoi dire. Et puis elles sont bon, j'ai remarqué. Elles refusent de discuter là-dessus parce qu'elles savent que ça ne peut pas répondre à l'objection. Parce que l'homme et la femme sont différents, c'est tout. Parce que cette objection que je viens de leur faire détruit complètement le dogme de l'égalité. L'homme et la femme ne sont pas égaux. Ils sont semblables, ils ont été créés par Dieu tous les deux, mais ils ne sont pas égaux. Le corps de la femme n'est pas le même que le corps d'un homme. Le métabolisme d'une femme n'est pas le métabolisme d'un homme. La femme a des possibilités qu'un homme, est incapable de nourrir un nourrisson. Une femme le peut. Un homme est incapable de porter un bébé qui grandit en son sein pendant 9 mois. Une femme peut le faire. Par contre, l'homme peut faire des choses qu'une femme ne peut pas faire.
Ce que veut faire les mots qu'on maintenant on voit bien des sûr. Femmes à barbe en train de
mais bien sûr. Voilà. Oui, mais c'est encore une fois, c'est contre nature tout ça. Parce que ça ne correspond à rien du tout. Vous voyez, et on peut se poser la question, mais pourquoi les gens ont accepté des bêtises pareilles? Réponse, parce qu'ils ont perdu la foi. Ayant perdu la foi, ils ont perdu le bon sens.
Et ils veulent montrer aussi que la science peut tout faire. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on voit des femmes à barbe en train d'allaiter leurs enfants ou qui ont même accouché alors que...
Mais elles n'ont pas accouché.
Des hommes, hein.
Elles ont une apparence d'homme, mais en fait ce sont des femmes. Ouais. Si elles ont accouché, ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes.
Mais elles ont l'apparence de...
Oui. Mais encore une fois, c'est se moquer du monde. Ils prennent les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. C'est vraiment ça. Vous voyez? Alors, ça, c'est un point clé aussi dans mon texte. J'ai souligné en rouge pour bien montrer que c'est une phrase clé. Je répète cette phrase de Saint-Pélice. On serait tenté de croire que les modernistes tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont oscillants et incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une et l'autre étrangères. Donc, la foi et la science sont dans deux domaines complètement différents, deux planètes différentes. D'accord. Donc il peut y avoir une contradiction entre la foi et la science, puisque la lumière sont différentes. Nous, catholiques, nous disons qu'il ne peut pas y avoir de contradiction entre la foi et la science, c'est impossible. S'il y a une contradiction apparente entre la foi et la science, c'est que la science se trompe. Voilà, c'est aussi simple que ça. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrivent-ils l'histoire, dit Saint-Pélice. Nulle mention de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Monte-t-il dans la chair sacrée? Il la proclame hautement. Ça veut dire le même prêtre qui va, du haut de la chair, parler de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre qu'il a écrit avant de monter dans la chair, dit le contraire et dit la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Historien, il dédaigne les pères et les conciles. Catéchiste, il les cite avec honneur. Donc vous avez des prêtres qui ont complètement perdu la foi, qui ne croient plus à rien du tout, mais qui sont capables, comme modernistes, d'enseigner encore, quand il le faut, à un public traditionnel qui veulent amadouer des choses encore traditionnelles. C'est exactement ce que fait Bergoglio en longueur de journée à Rome. Ou selon les personnes à qui il parle, il y a des gens comme ça, qui changent la doctrine selon les personnes à qui il parle. Quand il parle à des gens traditionnalistes, ils ont une façon de parler complètement catholique traditionnelle. S'il parle des modernistes, ils changent complètement le vocabulaire. Moi, j'ai connu des gens comme ça, en fait, des invités, c'est ahurissant. Ou des prêtres étaient capables de faire des conférences complètement différentes selon le public à qui ils s'adressaient. C'était un public traditionnel, un peu tendance et dévacantiste, on faisait très attention à ce qu'on disait. On donnait une certaine impression de force. Et au contraire, si après ils pouvaient parler à des gens pour lesquels, sur lesquels ils étaient sûrs, qui étaient dans leur ligne de pensée profonde, à ce moment-là, ils devenaient complètement modernistes, ou pratiquement modernistes. D'accord ? Si vous n'y prenez garde, il y a pour ces modernistes deux exégèses fort distinctes. L'exégèse, c'est la science de l'écriture sainte. D'accord ? L'exégèse théologique et pastorale, l'exégèse scientifique et historique. Donc l'exégèse théologique et pastorale peut être catholique, l'exégèse scientifique et historique peut être complètement moderniste. De même, en vertu de ce principe, que la science ne relève à aucun titre de la foi, s'ils dissertent de philosophie, d'histoire, de critique, ils affichent en mille manières, n'ayant pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther, leur mépris des enseignements catholiques, des saints-pères, des conciles écuméniques, du magistère ecclésiastique, réprimandés sur ce point, ils jettent les hauts cris, se plaignent amèrement qu'on viole leur liberté. Et donc, de temps en temps, on voyait très bien, même sous Pidouze, par exemple, quand Pidouze reprenait publiquement des moines, des évêques ou des prêtres qui avaient complètement perdu la foi, qui étaient en train d'enseigner des erreurs, en disant vous avez enseigné telle et telle chose, ce n'est pas catholique, ils poussaient ces mêmes personnes condamnées par Pidouze, poussaient des hurlements en disant mais on n'a jamais enseigné ça, on n'a jamais voulu dire ça, nous croyons bien sûr à tout ce que l'Église catholique a enseigné pendant un siècle. Rappelez-vous le texte, telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste, ils sont capables de lire le tout, le contraire, le tout. N'importe quand. Leurs livres sont pleins de contradictions. Vous voyez ? Alors ça, c'était autour au début du XXe siècle, si vous voulez, au temps de Saint-Pélis. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de se cacher. C'est ça le drame. Ils n'ont même plus besoin de se cacher et détruisent tout. Ils détruisent tout, tout directement. Vous voyez ? Enfin, vu que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent l'Église, ouvertement et en toute rencontre, de ce qu'elle s'obstine à ne point assujettir et accommoder les dogmes aux opinions des philosophes. Quant à eux, après avoir fait table rase de l'antique théologie, théologie de saint Thomas, ils s'efforcent d'en introduire une autre, complaisante celle-ci aux divagations de ces mêmes philosophes. Donc le modernisme, si vous voulez, va tout changer, et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous prenez un catéchisme moderne, c'est ça. Vous prenez des textes modernes, c'est complètement ça. Vous voyez ? Ils sont très, très, très intelligents, très doués. Prenez par exemple, je vous l'ai déjà donné cet exemple, parce que moi ça m'avait énormément frappé, j'étais allé chercher le texte, je vous l'avais donné d'ailleurs, d'un journal complètement moderniste qui s'appelle Le Pèlerin, que vous lisez malheureusement. Je vous ai montré, vous avez oublié, mais je vous ai trouvé des articles qui sont en fait en faveur de l'homosexualité. Mais ils ne vont pas le dire comme ça. Ils ne vont jamais dire dans les textes le catholicisme est pour l'homosexualité. Bien sûr que non. Ils vont faire un texte complètement alambiqué sur un ménage d'homosexuels qui va à la messe, qui communie, qui confesse et qui est parfaitement heureux dans le meilleur des mondes. Et on va présenter une image de ces deux personnes, de ces deux hommes main dans main qui sont bras dessus. Voilà, tous qui se regardent avec des airs d'ange, qui sont très gentils, qui sourient à tout le monde, ils sont gentils, ils s'occupent des pauvres, ils sont très gentils ces petits homosexuels. Il faut petit à petit faire croire aux gens que l'homosexualité est devenue quelque chose de parfaitement normal. Parfaitement normal. Et donc, c'est ce qu'ils cherchent à faire. Vous voyez, prenez l'avortement par exemple. Prenez l'avortement, eh bien, ils vont présenter l'avortement de telle façon que la personne qui est tentée par un avortement ne va jamais comprendre que c'est le meurtre d'un bébé. Par exemple, les gens, les femmes qui malheureusement sont tentées par ce crime épouvantable de l'avortement, une des questions qu'elles vont poser au médecin, c'est « Mais si mon bébé, elles utilisent le mot bébé, hein, si mon bébé est avorté, est-ce qu'il va souffrir ?» Réponse du médecin, « Mais non, pas du tout, madame, ne vous inquiétez pas, à cet âge-là, le système nerveux n'est même pas encore organisé. » Ce qui est complètement faux. Puisque les premières choses qui s'organisent, c'est précisément le système nerveux. Donc un enfant abordé souffre, avorté souffre. Avorté souffre, vous voyez. Et il change complètement l'apparence pour que les gens ne réagissent plus qu'avec le cœur. C'est le sentiment qui prime. Ils ont fait la même chose, par exemple, pour supprimer la peine de mort. On a présenté des souffrances épouvantables de ces pauvres assassins qui sont condamnés à mort. Ah, c'est épouvantable. Vous vous rendez compte, ils vont passer 6 mois en cellule, en pensant à leur mort qui va arriver. Puis un beau jour, le policier vient, ouvre la porte, les clés tournent dans la serrure et il est amené sous le couperet de la guillotine. Ah, c'est épouvantable. Pas une seule seconde, ils ont parlé des 25 gamins qui ont été étranglés par le bandit. Ça, ils n'en parlent pas. Vous voyez, ils coupent complètement les choses du réel. Et ils font marcher que le sentiment. C'est tout, le sentiment. Et plus que ça qui reste. C'est pour ça que ce paragraphe-là est, à mon avis, un des plus importants de l'encyclique.
C'est
que
l'Église, mais la société civile de la même.
Bien sûr. Parce que quand on enlève le bon Dieu d'une société, on enlève aussi la société civile. Hein. Parce que le bon Dieu de la société civile, c'est quoi? Parce que c'est ça, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, j'ai lu des textes écrits par des prêtres modernistes qui disaient la bouche en cœur. Je ne sais même pas ce que c'est que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai jamais étudié ce truc-là au séminaire. On arrive à des ignorances, mais absolument crasses, qu'on appelle l'ignorance supine, l'ignorance voulue, littéralement. On m'a envoyé, ça a été publié dans le petit groupe interne de qu'on a sur Telegram, de ce prêtre en soutane impeccable. On lui pose la question, le corps romain, ça sert à quoi? Quel est le symbole du corps romain? Le prêtre répond, j'en sais strictement rien. Ça vient avec le package, comme ils disent. Ça vient avec, oui, ça fait partie de la soutane. Il y a la soutane, il y a la ceinture, et il y a le col romain. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Et quand on va regarder la photo, c'est une petite vidéo, on voyait très bien que manifestement, sa soutane, elle sortait de la naphtaline. Mais la première chose qu'on apprend en séminaire, justement, avant de prendre la soutane, au séminaire, on rentre en octobre de première année, on prend la soutane de février. Une des premières choses qu'on apprend, justement, le symbole de l'obéissance par l'anneau de l'esclave représenté par le col, c'est la vertu d'obéissance, la lutte contre la concupiscence de l'orgueil, la ceinture qui représente la concupiscence, la lutte contre la concupiscence de la chair, la vertu de chasteté, et le noir de la soutane, la simplicité de la soutane contre l'esprit de pauvreté, contre la concupiscence des yeux. On apprend ça? C'est même pas ça. Ils savent plus rien. Et c'est affreux, parce que quand on parle avec des prêtres modernes, ils le reconnaissent d'ailleurs. Ils parlent Vatican II. Je dis, bon, attendez, 2 secondes. Quand ils acceptent de parler, c'est quand ils maintenant, je sais ce qu'il faut leur dire. Ils disent, Vatican II, très bien. Bon, Vatican II, d'accord. Vatican II, c'est quel numéro de concile? Ils savent même pas. Ils disent, concile 21e. Et les 20 conciles qui précèdent. Pouvez-vous me dire, monsieur, si vous avez lu un seul texte d'un des conciles avant Vatican II, est-ce que vous avez déjà ouvert le concile de Trente au XVIe siècle? Est-ce que vous avez déjà ouvert le concile de Nicée au IVe siècle? Est-ce que vous avez ouvert le concile d'Éphèse, les textes du concile d'Éphèse du Vème siècle, qui sont des conciles autrement plus importants que Vatican II, puisque pour vous, je me permets de vous rappeler, cher monsieur, que Vatican II est un concile purement pastoral, donc tout à fait secondaire. Les 20 premiers conciles d'avant sont tous dogmatiques, ils sont importants. Vous avez lu combien de fois dans votre vie de prêtre avez-vous ouvert un des textes de ces 20 conciles qui ont précédé Vatican II? Ils sont obligés de me répondre, jamais.
Ou lu une encyclique?
Jamais. Ils n'ont jamais ouvert un de ces textes. Quand ils parlent de l'obéissance au pape, je dis très bien. Le pape actuel, entre guillemets pape, celui qui se présente comme pape à Rome, c'est le pape numéro 266 depuis Saint-Pierre. Est-ce que vous êtes préoccupé, monsieur, de savoir ce que les papes ont enseigné depuis Saint-Pierre jusqu'au numéro 260 ou 259? Est-ce que vous avez déjà étudié l'enseignement du pape Saint-Pie X, l'enseignement doctrinal et magistériel du pape Pie IX, l'enseignement dogmatique des papes, par exemple, de Pie XII? Est-ce que vous avez déjà lu, monsieur, Quanta Chorale, le syllabus de Pie IX? Est-ce que vous avez déjà étudié le syllabus ou notre charge apostolique de Saint-Pie X? Est-ce que vous avez étudié les grands textes de Pie XII qui condamnent tout ce qui se passe actuellement? Ils vont vous dire la bouche en cœur, non, j'ai jamais étudié tout ça. Alors, vous étudiez à fond Vatican II, mais vous refusez les 20 conciles qui ont précédé.
2000 ans.
Vous suivez les papes depuis, soi-disant papes depuis Jean 23, mais vous refusez les 260 papes qui ont précédé. Et après, vous vous accusez de pas être catholique. L'évêque d'Albi vient de faire une déclaration, et je le remercie infiniment d'ailleurs pour sa publicité purement gratuite qu'il vient de nous faire, parce qu'on commence déjà à en entendre parler. L'évêque d'Albi vient faire une publicité pour nous, sans s'en rendre compte. Parce qu'il a dit, j'ai entendu parler qu'il y a une chapelle qui s'ouvre à Tanus le 15 août, c'est notre nouvelle chapelle qui effectivement va être inaugurée, si Dieu veut, le 15 août, elle est presque terminée. Je voudrais rappeler que cette chapelle et le prêtre qui va y célébrer le 15 août ne sont pas catholiques. Signé par l'évêque d'Albi.
Il ne dit pas célébrer, il dit tire.
Oui, c'est bien. Bon, la chapelle et le prêtre ne sont pas catholiques. Aucune raison donnée, rien. Mais alors maintenant, vous avez, on m'a montré ce matin des textes. Mes parents qui m'ont amené ces textes, c'est très intéressant. Il y a des gens complètement que nous connaissons pas, qui demandent à l'évêque, mais cette chapelle là, oui, on entend parler, ils sont pas catholiques. En quoi ils sont pas catholiques? En quoi leur doctrine n'est pas catholique? Et puis il commence à chercher. T'as lu, mais c'est où ça? Ah mais oui, c'est à la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, là, du côté sur la route de Rodez. Et vous allez voir qu'on va commencer à avoir des gens qui vont venir grâce à l'évêque, à la déclaration de l'évêque d'Albi. Et si ça se passe, moi j'écris là à l'évêque d'Albi, hein. Je reviens à ce monsieur, je vous remercie de fond de cœur de la publicité que vous nous faites grâce à votre intervention. Nous avons maintenant de nombreux fidèles qui viennent de votre église et qui redécouvrent la foi catholique. S'il vous plaît, continuez de faire des interventions de ce genre. Vous nous aidez énormément. Que le bon Dieu vous garde. Ouais, j'aurais rien d'être comme ça. Parce que je sais que ça sert absolument à rien de discuter pendant des heures de savoir pourquoi on n'est pas catholique. Nous suivons 20 conciles écuméniques et on n'est pas catholique. Nous suivons 260 papes et on n'est pas catholique. Alors que les prêtres modernes dans les églises d'Albi, qui eux suivent 6 papes, soi-disant papes, contre 260 papes, eux sont catholiques, et qui acceptent un concile contre 20 conciles, eux ils sont catholiques. Mais c'est vraiment, on se moque du monde, eux. On se moque du monde, là.
L'église, c'est pas l'église catholique, c'est l'église conciliaire, monsieur.
Mais oui, bien sûr que c'est mais oui, mais ils, pour eux, bien sûr que c'est deux églises différentes, mais pour eux, vous voyez, c'est un truc qui m'a frappé justement dans le texte de l'évêque d'Albi, c'est qu'il a pris grand soin d'utiliser le mot catholique qu'ils utilisent d'abord, d'habitude, jamais. Vous avez déjà entendu par Bergoglio à Rome parler de l'église catholique? Jamais. Dans ses prêches le dimanche, vous avez déjà entendu l'évêque d'Albi parler de l'église catholique? Jamais. Par contre, quand il veut empêcher les gens de venir à ma messe le dimanche, à Albi, à la nouvelle chapelle de Tanus, il prétend cette chapelle et ce prêtre ne sont pas catholiques. Pourquoi il utilise un terme que d'habitude il n'utilise jamais? Comment ça se fait qu'il ressort d'un seul coup ces termes qu'il n'utilise jamais d'habitude? Pourquoi? Là, d'un seul coup, il se rappelle qu'il est catholique? Ben, c'est du n'importe quoi. Mais ça, vous voyez, ça correspond tout à fait à ce texte. Je pense que ce paragraphe-là que je viens de vous lire, je vais vous le relire pour être sûr que c'est bien compris. Je pense que ce paragraphe-là est certainement le plus important dans ces clés. Je vous le relis parce que il faut vraiment bien le mettre dans sa cervelle. Là, ce que dit, c'est le paragraphe dans mon édition de Pachandi, c'est le numéro 20. Je ne sais pas si les numéros qui correspondent au paragraphe sont les mêmes pour toutes les éditions. Ça, j'en sais rien. Dans mon édition, c'est le numéro 20. Ce qui jettera plus de jour encore sur ces doctrines des modernistes, c'est leur conduite qui est pleinement conséquente. À les entendre, à les lire, on serait tenté de croire qu'ils tombent en contradiction avec eux-mêmes, qu'ils sont aussi en incertains. Loin de là, tout est pesé, tout est voulu chez eux, mais à la lumière de ce principe que la foi et la science sont l'une à l'autre étrangères. Telle page de leur ouvrage pourrait être signée par un catholique, tournez la page, vous croyez lire un rationaliste. Écrivent-ils l'histoire? Nulle mention de la divinité de Jésus-Christ. Montent-ils dans la chair sacrée? Ils la proclament hautement. Historiens, ils dédaignent père et concile. Catéchistes, ils les citent avec honneur. Si vous y prenez garde, il y a pour eux deux exégèses fort distinctes, l'exégèse théologique et pastorale, l'exégèse scientifique et historique. De même, en vertu de ce principe que la science ne relève à aucun titre de la foi, s'ils dissertent de philosophie, d'histoire et de critique, ils affichent en mille manières, n'ayant pas horreur de marcher en cela sur les traces de Luther, leur mépris des enseignements catholiques, des saints-pères, des conciles écuméniques, du magistère ecclésiastique. Réprimandés sur ce point, ils jettent les hauts cris, se plaignant amèrement qu'on viole leur liberté. Enfin, vu que la foi est subordonnée à la science, ils reprennent l'Église, ouvertement et en toute rencontre, de ce qu'elle s'obstine à ne point assujettir et accommoder les dogmes aux opinions des philosophes. Quant à eux, après avoir fait table rase de l'antique théologie, ils s'efforcent d'en introduire une autre complaisante, celle-ci, aux divagations de ces mêmes philosophes. Je pense que c'est, à mon avis, le paragraphe le plus important de l'encyclique. C'est pour ça que le modernisme, si vous voulez, est tellement déconnecté du réel qu'il n'y a plus rien. Ils ont tout cassé, il n'y a plus rien qui sort.
C'était
1907. Oui. Donc, Saint-Pie X, en 1907, avait deviné tout ce qui se passait. Alors qu'extérieurement, n'oubliez pas qu'en 1907, en pleine persécution du ministère Combes contre l'Église, c'est les lois de séparation de 1905, etc., avec Aristide Briand en compagnie, c'est la grande persécution contre l'Église catholique. Extérieurement, l'Église est forte comme tout face justement à la séparation de l'Église et de l'État, voulue par la France entre autres. Eh bien, alors que extérieurement tout semble uni et ferme dans la foi catholique, dans l'Église catholique, Saint-Pélis explique, attention, à l'intérieur de l'Église, vous avez des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, qui savent très bien où frapper, parce qu'ils viennent de l'Église catholique. Et il va expliquer, ces gens sont des prêtres et des évêques. D'accord ? Alors, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je viens de recommander 20 catéchismes, hein. Je viens de les recevoir, je les ai commandés aux éditions Saint-Rémy. Ils ont réédité le catéchisme de Saint-Pie X avec les premières notions, avec les petits chapitres qui avaient été rajoutés par Saint-Pie X pour expliquer la liturgie, pour expliquer l'année liturgique, pour expliquer la messe, etc. C'est très bien fait. Moi, j'ai acheté ces livres et quand j'ai des gens qui viennent me voir en disant « Monsieur l'abbé, on a tout oublié, on ne sait plus rien, on n'est même pas baptisé, on est baptisé, on ne sait même plus, on ne sait plus rien du tout, on voudrait reprendre le chemin, mais on ne sait pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Je leur donne le catéchisme de Saint-Pie X. Commencez par ça. C'est même pas 100 pages. On va faire 80 pages. Le catéchisme lui-même. Lisez ça, lentement, doucement. Vous lisez deux, si vous êtes deux, vous lisez ce catéchisme. Voilà ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles. Il date de quand votre catéchisme ? 1910. C'est-à-dire, le catéchisme de Saint-Pie X est un des premiers fruits de la lutte de Saint-Pie X contre le modernisme. Pour lutter contre le modernisme, entre autres, il a publié un catéchisme qu'on appelle le catéchisme de Saint-Pie X. D'accord ? Et je pense que ce sont des choses... des choses extrêmement, extrêmement, extrêmement importantes. Vous voyez, le problème, c'est, et c'est ça le génie de Saint-Pie X, c'est d'arriver à faire le lien entre tous ces changements qu'on est bien obligé de voir. Beaucoup de gens ont vu ces changements. Ils disent, mais monsieur l'abbé, mais les prêtres ne sont plus comme avant. Quand on rencontre des prêtres modernistes et qui nous font des commentaires sur la soutane et qui nous disent... de toute façon, on est pareil, on est prêts tous les deux, n'est-ce pas? Je dis non. D'abord, il y a une différence d'habits. Moi, j'ai mon habit, il est où le vôtre? Deuxièmement, j'enseigne le catéchisme de Saint-Pie X, vous ne l'avez jamais enseigné. Je dis à un maître traditionnel qui a 2000 ans d'âge, vous ne l'avez jamais dit. Je suis 20 conciles œcuméniques que vous avez jamais ouverts. Je suis l'enseignement théologique et dogmatique de 260 papes que vous avez jamais regardés. Et j'enseigne la foi catholique telle que l'Église catholique l'a enseignée pendant 20 siècles, alors vous enseignez tout le contraire. Non, monsieur, nous ne sommes pas du tout égaux. Nous sommes complètement différents. Et c'est ça qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre. Et pour eux, j'ai remarqué, quand on attaque par ce biais-là, ils s'appuient sur eux. Je vous ai déjà expliqué, parce que pour bien comprendre ça, il faut faire le parallèle avec ce qui se passe dans les écoles. Dans les écoles publiques, ils font la même chose avec l'histoire, en faisant croire aux enfants que l'histoire de France commence en 1789 et qu'avant, c'est l'âge des ténèbres. Eh bien, avec les modernistes font la même chose avec les enfants dans nos écoles catholiques, en essayant de faire croire aux enfants que l'Église catholique, plus exactement l'Église, leur Église, il paraît que maintenant le nouveau nom, ça va être l'Église synodale. Ils veulent l'appeler comme ça. Moi, je serais très content qu'ils changent de nom. Au moins, les choses seront claires. Nous, on ne change pas de nom, toujours l'Église catholique. Bon, on fait partie de l'Église catholique. Mais ils vont vite comprendre, si vous voulez, que l'Église catholique n'a plus rien à voir avec leur Église. On est dans deux mondes complètement différents. Seulement, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que toutes ces abominations qu'on voit, c'est en fait d'abord une maladie d'intelligence. Et c'est ce que explique Sapidis. C'est une maladie de l'intelligence. L'intelligence est malade. On est malade parce qu'on est connecté à l'égout collecteur de toutes les hérésies. Surtout de l'agnosticisme, de l'immanentisme et de l'évolutionnisme. Nous croyons que la vérité n'existe pas et que donc chacun peut avoir sa vérité, que nous sommes incapables d'atteindre la vérité, agnosticisme. Nous sommes immanentistes parce que chacun fait sa propre vérité à l'intérieur de lui-même et n'a pas besoin d'avoir une vérité qui soit enseignée par qui que ce soit. Et nous sommes évolutionnistes pour que tout change et que les choses qui étaient vraies il y a 10 minutes ne sont plus vraies aujourd'hui et les choses que l'on enseigne aujourd'hui ne sont plus vraies dans 10 minutes parce que tout change.
Il faut que l'Église s'adapte au
monde. Voilà. Et donc, c'est là où il faut comprendre, ça nous aide à comprendre qu'on a devant nous deux Églises différentes. C'est ça qui est tellement difficile, surtout pour les personnes âgées, très âgées, quoi, moi j'en suis une moi-même, je viens de dire, mais on a beaucoup de mal, les gens ont beaucoup de mal de comprendre qu'il y a deux églises différentes. L'Église catholique et l'Église de Vatican II. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de donner une conférence, ça m'est arrivé plusieurs fois, donner une conférence qui m'a été demandée à des gens qui ne sont pas forcément des gens de la tradition, ça arrive, j'aime bien faire ça d'ailleurs. Des gens qui écoutent mes conférences, qui sont sur la chaîne dame-marie.net, qui ne vont pas forcément à la nouvelle messe, à la messe traditionnelle, ils vont de temps en temps, ils ne savent pas très bien, ils vont un peu à toutes les messes, ils vont à la fraternité de Saint-Bélis, ils vont à la fraternité de Saint-Pierre, ils vont à la nouvelle messe, ils vont un peu partout, ils vont même chez nous de temps en temps, et parfois ils vont me demander de venir, et ils vont dire, monsieur l'abbé, est-ce que vous pourriez essayer de nous aider à nous y retrouver dans cette pagaille? Première chose que je veux dire, écoutez, je vais vous dire certaines choses. Première chose que vous voulez comprendre, je suis prêtre. Mon rôle, ce n'est pas de vous plaire, c'est de vous dire la vérité. Donc je vais être obligé de vous dire des choses qui ne vont pas vous plaire. Vous allez quand même les écouter. Deuxième chose que je précise tout de suite, attention aux termes utilisés. Quand je parle de l'Église catholique, je parle de l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ sur Saint-Pierre, il y a 2000 ans, et qui s'est propagée jusqu'à la mort du pape Pie XII en 1958, en suivant 260 papes et avec l'enseignement correspondant aux 20 premiers conciles œcuméniques. Quand je parle de l'Église actuelle, basée sur le 21e concile œcuménique et sur les soi-disant papes depuis Jean 23 jusqu'à Bergoglio, je ne parle plus de l'Église catholique, je parle de l'Église de Vatican II. Ce sont deux églises différentes, donc attention aux termes. Quand je dis hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, je parle de l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis « dans l'Église de Vatican II, il raconte n'importe quoi », je parle de l'Église actuelle de Rome. Vous voyez ? Et c'est ça le... Il faut avouer ce qui est. C'est ça le plus difficile à comprendre. Vous voyez, on est combien aujourd'hui ? 24 ? Oui, c'est ça. Je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent sur Internet. Vous avez ce texte, hein, les textes de Pachandi et sur Internet, hein, sur le site Dans le magistère, sous la, l'onction, sous la, il y a tous les documents qui sont là. Hein. Donc vous pouvez les chercher. Je vous conseille beaucoup de relire au moins toute la partie de l'encyclique que j'ai déjà expliquée. Hein. Parce que si vous avez écouté, dans la mesure où vous écoutez tous les cours qui correspondent à cette première partie, hein. On n'a pas encore fait la moitié. Hein. Dans mon truc là, dans mon papier, on est à la page 6, il y a 20 pages. Donc j'ai fait même pas un tiers. Même pas un tiers. Donc je vous conseille beaucoup de relire ces textes. Parce que j'espère, enfin, c'est comme le but de la manœuvre, qu'après avoir écouté ces cours, ces textes vont vous parler davantage. Voyez. Donc il faut faire attention. Donc on va arrêter là, parce que ça fait déjà une heure et demie que je vous parle. Donc prochain cours mercredi prochain. Bon, pour ceux qui m'écoutent sur internet, donc nous ouvrons la nouvelle chapelle, si Dieu veut, le 15 août. Donc évidemment on peut pas inviter tout le monde, c'est impossible. J'ai une centaine de personnes qui veulent venir, je sais pas où on va les mettre, parce qu'on peut pas rentrer 100 personnes dans l'église, donc il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à l'extérieur. Bon, en tout cas, que tous ceux qui m'écoutent sur internet, qui veulent un jour passer, pas forcément le 15 août, parce que le 15 août on peut plus recevoir du monde, c'est pour les mettre. Mais après, qui veulent passer, vous êtes le bienvenu pour venir visiter l'église. Donc l'église, la nouvelle église s'appelle l'église Dame Marie, chapelle Dame Marie à Tanus. C'est sur la nationale 22, entre Albi et Rodez. Et donc nous l'inaugurons, elle sera bénite le 15 août. Je le bénirai même sans doute avant. Donc le 15 août, on aura une messe chantée à 10h avec sermon. Ensuite, nous aurons un repas champêtre tiré du sac. Donc on aura une... J'ai déjà le menu. J'ai le droit à la visite du cuisinier qui m'a déjà donné le menu. Je ne vais pas vous donner l'eau à la bouche, mais il y aura une salade de gésier, de l'ail, de... Comment on appelle ça, hein?
De l'oignon?
Non, de la purée avec mélangée avec du fromage, spécialité du coin. Un aligot, c'est ça. Un aligot avec des saucisses du coin. Et une croustade, c'est une spécialité d'une espèce de tarte aux pommes délicieuse de l'Aveyron. Hein. Donc on aura un repas tous ensemble, donc qui sera organisé par un de mes fidèles, que je remercie beaucoup. Et puis après on aura une procession de la Très Sainte Vierge Marie, en disant le chapelet, autour de la propriété, en disant le chapelet en même temps et en portant une belle image de la Très Sainte Vierge Marie qui porte son enfant sur un grand quart. Ensuite nous aurons le salut du Saint-Sacrement avec le renouvellement de la consécration de la France par Louis XIII, au cœur immaculé de Marie, et nous terminerons par un concert. Oui, salut ça sacrement avant, et on terminera par un concert. Donc j'ai demandé à quelqu'un, un de mes fidèles, l'ancien fidèle de Nantes, qui est un virtuose de piano, de venir nous faire un concert. Il va nous donner
masse chantée le matin avec chorale.
Oui, donc il va nous donner 8 morceaux de 8 œuvres de Chopin. C'est un spécialiste de Chopin. Et donc on mettra tout ce qu'on peut sur internet, au moins la messe, et on verra si on peut faire même une vidéo du reste. Je ne sais pas si on peut faire ça techniquement, je vais revoir. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort.
Maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.